RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, toujours en partenariat avec le quotidien La Croix. Régulièrement, Robespierre revient dans notre actualité politique. Les Insoumis, et notamment le premier d'entre eux, Jean-Luc Mélenchon, font appel à son illustre figure pour appuyer la nécessité d'un renouvellement révolutionnaire de notre vie politique. Mais qui était exactement celui qu'on a surnommé l'incorruptible ? À la fois fraternel et fratricide, il fut l'un des piliers de la Révolution. Il n'hésitait pas à faire décapiter ses amis les plus chers, comme par exemple le jeune Camille Desmoulins et sa femme Lucille. Nous allons tenter d'en savoir plus en compagnie de nos deux invités historiens, Antoine Boulan et Charles-Éloi Vial. Antoine Boulan, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous signez donc chez Perrin dans la collection Bibliothèque des Illustres, en partenariat avec la Bibliothèque Nationale de France, ce nouveau livre intitulé Robespierre, la vertu et la terreur. On va le voir dans un instant, c'est un ouvrage qui est servi par une iconographie de très très grande qualité, issue des collections, des prestigieuses collections de la Bibliothèque Nationale de France. Alors, Antoine Boulan, je rappelle que vous avez publié une biographie de Saint-Just chez Perrin, aussi le Tribunal révolutionnaire, Punir les ennemis du peuple, vous avez collaboré à de nombreux ouvrages collectifs et vous aviez publié en 2021, vous étiez venu à ce micro à ce sujet chez Passé Composé, un livre passionnant intitulé « La journée révolutionnaire, le peuple à l'assaut du pouvoir 1789-1795 ». Autant dire que vous êtes un vrai spécialiste de cette période. Et puis avec nous, Charles-Éloi Vial, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous, vous êtes conservateur à la Bibliothèque Nationale de France, conservateur plus précisément au service des manuscrits modernes et contemporains du département des manuscrits à la BNF. Vous nous en direz plus dans un instant. Vous êtes secrétaire général de l'Institut Napoléon. Vous avez publié récemment deux livres absolument passionnants, je le dis vraiment en insistant. Une histoire des 100 jours chez Perrin, c'était en 2021. Vous nous avez donc réécrit, rappelé ce qui s'est passé entre mars et novembre 1815. Et puis une synthèse tout à fait intéressante intitulée « Le siècle des chutes ». Et vous avez retracé les abdications et les déchéances de 1814 à 1870. C'était chez Perrin en 2022. Voilà, vous avez publié une biographie de Marie-Louise qui a reçu le prix Premier Empire de la Fondation Napoléon et vous dirigez donc cette collection, la Bibliothèque des Illustres, une coédition chez Perrin et Bibliothèque Nationale de France pour laquelle vous avez écrit le premier volume sur Napoléon Bonaparte. Nous allons reparler de tout cela dans un instant.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Alors cette semaine, notre héros, c'est Robespierre, Robespierre Maximilien, fraternel ou fratricide. Nous allons retracer, découvrir sa personnalité. Mais d'abord un mot peut-être, Charles-Éloi Vial, sur cette collection que vous dirigez aux éditions Perrin, en partenariat avec la Bibliothèque Nationale de France, la BNF, où vous travaillez, puisque vous êtes conservateur au service des manuscrits modernes. Pourquoi une telle collection, Charles-Éloi Vial ?
Eh bien, pour moi, c'est un peu la rencontre entre ces deux passions qui sont aussi un peu mon métier, à la fois conservateur de manuscrits et historien. Donc, c'est ma passion pour les sources.
Oui.
Le travail du conservateur, c'est d'enrichir les collections, mais c'est aussi de les faire connaître au plus grand nombre, de toucher le public le plus large. Et l'historien, sa passion et un peu son métier, c'est de travailler les sources, de les confronter, de les comparer, de les étudier et de les faire un peu surgir du néant. Donc, c'est un peu la rencontre entre ces deux tâches qui m'absorbe et qui me passionne, qui a donné l'idée de cette collection. J'avais fait un premier livre chez Perrin en 2018 qui s'appelait Napoléon à Sainte-Hélène, l'encre de l'exil, qui revenait sur les archives d'Hudson Lowe, le gouverneur de l'île de Sainte-Hélène. C'était des documents qui n'avaient jamais été vus.
Ah oui.
L'idée, c'était de les reproduire dans le livre, de les montrer, de montrer au lecteur qu'est-ce que c'est
qu'une écriture. Et de les rendre accessibles au plus grand nombre.
Exactement. Et l'idée ensuite est venue de continuer avec une collection donc qui est en partenariat entre Perrin et la Bibliothèque Nationale de France, une collection qui ferait la part belle aux images, mais pas des images que l'on voit dans tous les livres scolaires. Par exemple, pour la Révolution, on prend des tableaux un peu pompiers des années 1840-1850. C'est vraiment avoir des images contemporaines, avoir des documents contemporains, avoir, c'était le cas par exemple pour la biographie d'ouverture de Napoléon que j'avais publié en 2020, avoir des dessins Par exemple, des batailles que Napoléon avait pu commander, qu'il avait pu avoir entre les mains.
Et des documents qu'on n'avait jamais vus.
Des
alors.
Documents qui n'avaient jamais été vus, oui. ou qui avaient été très peu vus, ou qui oui. n'avaient tout simplement jamais été reproduits. Les historiens y citent en note de bas de page, et oui. le lecteur doit aller en note de bas de page ou même en fin de volume pour retrouver D'accord. les documents. Donc là, c'est l'idée, c'est de les montrer, c'est un peu de les faire sortir du néant et de faire découvrir aussi au lecteur à quel point c'est beau. Tout simplement, un document d'archive, voilà. une gravure ancienne, c'est quelque chose de magnifique.
Et donc, vous mettez à la portée du plus grand nombre, notamment le travail d'historien de grande qualité. On va aborder dans un instant la biographie donc de Robespierre par Antoine Boulan. Mais aussi, vous leur faites visiter vos archives, en quelque sorte, de la Bibliothèque nationale.
C'est un peu l'idée, parce que voilà. il faut savoir que tous ces documents, d'accord, ils sont décrits dans des catalogues. Depuis peu, certains sont numérisés sur Gallica, mm-hmm. mais il faut... Parfois, il faut réussir à les retrouver. Ça fait un peu peur. C'est immense, oui. la bibliothèque.
Et oui, c'est pas donné à tout le monde.
Donc, théoriquement, c'est pour tout le monde. Et d'ailleurs, oui. on le voit bien avec la rouverture prochaine du site Richelieu et le musée de la BNF qui va ouvrir dans quelques jours. C'est pour tout le monde. Ça appartient à tout le monde. Donc, l'idée, c'est de prendre par la main les lecteurs, ceux qui sont intéressés par des personnages comme Robespierre, Marie-Antoinette, Mazarin ou Napoléon, et de leur montrer qu'est-ce qui, dans les collections de la BNF qui sont vraiment abyssales, tentaculaires, oui. qu'est-ce qui vraiment peut permettre d'écrire la vie de ce personnage et de faire ressortir des éléments absolument nouveaux.
Alors vous dites abyssal, tentaculaire. Vous, en tant que conservateur au service des manuscrits modernes et contemporains de la BNF, vous avez sous votre responsabilité quelle quantité de documents ?
Alors, moi, je m'occupe de à peu près 150 fonds d'archives, oui. ce qui est assez conséquent. Il y a environ 500 000 manuscrits et oui. on estime qu'en tout, il y a environ 30 millions de documents.
30 millions de documents
à
la BNF.
Et ce sont ou des imprimés, des journaux, oui. des livres, des gravures, mais ça peut être des dessins, des costumes.
Ou des objets.
Des objets, des voilà. monnaies, des médailles, des tableaux. Il y a absolument tout. En fait, c'est une bibliothèque encyclopédique. Dans une bibliothèque, il n'y a pas que des livres. Surtout dans une grande bibliothèque patrimoniale comme celle-ci, il y a absolument de tout. Et c'est une richesse absolument inouïe. C'est un peu une sorte de grand livre d'histoire de France.
C'est ça.
Grand musée d'histoire de France.
Accessible à tous. Alors, vous avez évoqué rapidement Gallica. Gallica, c'est la Bibliothèque nationale de France sur Internet. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, et comment on y accède ?
Alors on y accède tout simplement par internet en tapant gallica.bnf.fr et on y trouve des manuscrits, des imprimés, des monnaies et médailles. On trouve absolument toutes les collections qui sont numérisées et c'est un travail qui se fait petit à petit depuis presque plus de 20 ans maintenant.
Et c'est gratuit ?
Et c'est gratuit bien entendu et petit à petit toutes les collections sont mises en ligne tant que bien sûr on peut le faire au niveau des droits. Ça doit être des documents libres de droit donc avec des producteurs, des auteurs morts depuis un certain temps. Et aussi, tant que l'État le permet, certains manuscrits extrêmement fragiles, par exemple, ne peuvent pas être photographiés tout simplement parce que la reliure est trop fragile. On ne peut pas l'ouvrir plus que de 10-20 degrés, donc c'est très compliqué pour lire ce qu'il y a dedans.
On imagine.
Mais on ne peut pas non plus les prendre en photo. Mais autrement, on essaie de mettre le plus possible en ligne et d'en mettre un petit peu pour tout le monde, pour toutes les époques du Moyen-Âge, de l'Ancien Régime, du 19e, un petit peu de 20e siècle maintenant. Donc c'est vraiment extrêmement riche. C'est extrêmement riche pour les étudiants et c'est aussi riche pour les amateurs qui ont envie de voir des belles images.
Voilà, y compris pour nous tous, le grand public. Exactement. On peut voyager à travers la Révolution française.
Par exemple, il y a des sélections thématiques qui ont été faites par mes collègues qui sont très riches. Ça peut permettre d'ouvrir des fenêtres sur le passé. C'est assez frappant.
Et c'est gratuit.
Et c'est gratuit.
Alors, autre chose, vous avez évoqué la réouverture du site Richelieu, le site historique rue de Richelieu et la Bibliothèque nationale. C'est pour quand ?
Alors, ça va rouvrir progressivement à partir de ce week-end, puis ensuite pour les journées du patrimoine un petit peu plus, et puis ensuite...
Donc à partir de la mi-septembre, en gros ?
En gros, et à partir du 19 septembre, nous rouvrons public, les salles rouvrent, et tout le monde pourra visiter, profiter.
Alors, qu'est-ce qu'on pourra voir ? Alors, faites-nous envie, Charles-Éloi Vial.
Eh bien...
faites le guide pour nous.
Tout simplement, le site qui a été refait entièrement, donc toutes les salles de lecture sont flambant neuves, les salles patrimoniales ont été restaurées, la galerie Mazarin avec la voûte peinte par Romanelli au XVIIe siècle est absolument somptueuse, les différentes grandes salles comme la salle Labrouste qui ont été là aussi restaurées, et bien sûr le musée de la BNF avec des collections qui sont appelées régulièrement à tourner. On va changer, renouveler le contenu des vitrines, donc avec là aussi des manuscrits, des cartes, des estampes, des objets. Donc c'est extrêmement riche et surtout ça va vraiment être très 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 beau.
On sent la passion qui vous anime, Charles-Éloi Vial, et on a envie de vous suivre pour visiter cette Bibliothèque nationale. Est-ce que vous qui êtes professionnel et passionné en même temps, au milieu de ces 30 millions de documents, vous arrive-t-il de découvrir des pépites, des choses inattendues ? Est-ce que vous êtes surpris parfois, Charles-Éloi Vial ?
Tous les jours.
Tous les jours ?
Tous les jours, et c'est ça la beauté de ce métier, c'est que tous les jours, on peut trouver au détour d'un magasin un carton où l'on voit écrit mais bien ça mais je connais ce bonhomme, j'ai déjà lu ça dans un livre, mais j'ai envie de l'ouvrir, j'ai envie de voir ce que c'est tout de suite. Donc c'est une vraie joie, c'est un vrai plaisir, et le plaisir aussi c'est de pouvoir enrichir ses collections, pouvoir par des achats, par des dons, pouvoir faire entrer de nouveaux manuscrits, les mettre à disposition du public et avoir le plaisir de découvrir là aussi parfois chez des marchands, chez des héritiers, des documents qui sont inédits et qui vont ensuite pouvoir servir à des historiens. Il y a pas très longtemps, j'ai eu la chance comme ça de faire entrer dans les collections publiques un manuscrit de la main de Louis-Philippe. Ce sont des notices, des tableaux pour le musée de l'histoire de France de Versailles qui ont été donnés à la BNF, et en regardant le texte un peu plus près, on se rend compte à quel point Louis-Philippe rédigeait lui-même le guide touristique, tellement il tenait à ce musée de l'histoire de France de Versailles, et on se rend compte qu'il a pris son autobiographie, ses mémoires qu'il avait commencé à rédiger pour rédiger les notices de certains tableaux, par exemple des batailles de la campagne de 1792 où il était présent. Donc c'est un musée qui prend d'un coup dimension autobiographique, et on trouve ça en lisant ces manuscrits pour la première fois.
Et on sait à quel point ce musée d'histoire de France à Versailles avait pour but de construire déjà un récit national, et c'était déjà une volonté du prince.
Exactement, et c'est amusant de voir que finalement la Bibliothèque des Illustres, on fait exactement le contraire, on ne prend pas des images commandées par le roi ici pour représenter des événements passés, on essaie d'avoir des documents les plus contemporains possibles. Comme je vous le disais, on essaie de se limiter à quelques exceptions près quand on parle de la légende. Pour cette collection, on prend des documents contemporains, donc des manuscrits, des images qui sont produites sur le coup pour commenter un événement. Et c'est souvent ça qui est l'idée, c'est de faire entrer le lecteur dans l'atelier de l'historien, de lui montrer comment des documents contemporains peuvent être exploités, peuvent être confrontés, peuvent être mis en présence l'un de l'autre, et cela fait ressortir parfois du neuf. Donc ce sont des synthèses biographiques, mais parfois aussi il y a des avancées de la recherche qui peuvent être parfois peut-être pas immense, mais on a la satisfaction d'apporter un petit peu de neuf
à travers de nouveaux documents. Alors pourquoi ce Robespierre ? Venons-en à Maximilien, qui sera notre héros de la semaine dans cette édition des Racines du Présent. Pourquoi Maximilien Robespierre dans cette collection des Illustres, cher Éloi Vial ?
Eh bien, j'avais travaillé sur la Révolution française pour mon livre sur la famille royale au Temple, et je m'étais rendu compte que les collections de la BNF sur la Révolution sont très très riches et qu'elles n'avaient plus vraiment été consultées,
exploitées
depuis presque 100 ans.
Ah oui. Simplement parce que à l'occasion du bicentenaire, par exemple, on n'a pas travaillé là-dessus.
Très peu. On emprunte les gravures pour des expositions, mais les manuscrits avaient été beaucoup moins vus, tout simplement parce que beaucoup de textes avaient été édités et les historiens préféraient aller voir les éditions, mais elles sont parfois incomplètes ou parfois fautives. Et là aussi, simplement depuis un siècle, les collections se sont enrichies.
Et
il faut aller voir dans les catalogues. On ne s'en rend pas forcément compte. Tout le monde n'est pas au courant de ce que la BNF peut acheter. Donc il y avait du neuf à dire. Et finalement, Robespierre, c'est un peu le personnage qui rassemble un petit peu, on le retrouve dans toutes ses sources, dans tous ses manuscrits.
Qui rassemble et qui divise, on va le voir tout à l'heure.
Qui divise aussi, mais
qui cristallise.
Mais il est présent dans tous ses documents, et donc c'était l'occasion de les faire sortir de l'ombre et d'en mettre certains en avant. Je pense par exemple à certaines correspondances de conventionnels, au souvenir de Marc-Antoine Baudot, qui est un conventionnel qui écrit sur ses vieux jours, qui parle beaucoup de Robespierre. On s'est rendu compte que le manuscrit avait été édité, mais pas complètement. Il y avait des passages qui avaient été oubliés, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. On se rend compte dans les autographes, il y avait des lettres de Robespierre, de son frère Augustin, de sa sœur Charlotte, qui n'étaient pas cataloguées correctement. Donc là, on peut les identifier, on peut savoir de quand elles datent, même s'il n'y a pas la date qui apparaît dessus, à part le contexte. Donc ça permet aussi d'enrichir la connaissance des collections. Et Robespierre, ça semble être le meilleur choix pour parler de la Révolution.
Très bien, et tout ça donc en grand format, 256 pages pour seulement 25 €. On va partir à la découverte de ces nouveaux documents et de ce nouveau portrait de Maximilien Robespierre.
Les racines du présent, RCF.
Alors Antoine Boulan, vous êtes l'auteur de ce Robespierre intitulé « La vertu et la terreur ». C'est donc une coédition Perrin Bibliothèque Nationale de France. On l'a entendu avec Charles-Éloi Vial qui dirige cette collection. Le principe de base de cette biographie, c'est de mettre en évidence cette double face de Robespierre, Antoine Boulan, une face positive et disons une face noire. Alors racontez-nous quelles sont les deux faces de Maximilien Robespierre.
C'est bien de rappeler que le souci premier est de... de souligner ce que vous appelez les deux phases, dans la mesure où vous n'ignorez pas qu'effectivement Robespierre, on en reparlera, fait partie de ces personnages qui ont été pour beaucoup, si on peut dire, récupérés par différentes franges du spectre politique depuis déjà très longtemps. Oui. Et donc il est très difficile d'essayer d'adopter une position équilibrée sur un personnage aussi polémique, et pourtant c'est d'autant plus indispensable.
Oui, c'est une ligne de crête
que j'avais déjà essayé de tenir avec mon précédent Saint-Just, et ça n'est pas facile.
Oui, vous prenez des sujets compliqués.
Je prends des sujets compliqués parce que et dominé de fait par une historiographie, et c'est pas injurieux de le dire, c'est tout à fait public, chacun le sait, qui a été pendant très longtemps dominé par la gauche ou l'extrême gauche française au sein même de l'université, puisque l'historiographie de la Révolution française a été dès le départ très très marquée d'un certain côté du bord politique, jusqu'à ce qu'une école comme celle de François Furet dans les années 70, celle de Patrice Guénifet plus près de nous, essaye de rééquilibrer la balance de l'autre côté avec une vision plus critique de la période. Mais c'est vrai que quand on s'attaque à un personnage aussi polémique, on est dans l'obligation d'essayer d'adopter une vision aussi dépassionnée et équilibrée que possible. Voilà. Je n'ose pas dire objectif parce on va me rétorquer que l'objectivité en histoire n'existe pas, ce qui est un peu vrai.
Parce que je vous rassure, à la radio non plus.
À la radio non plus. Et dès qu'on écrit et qu'on prend la plume, évidemment, on prend partie d'une manière ou d'une autre, même de façon inconsciente. Donc il faut essayer de tenir cette ligne de crête. C'est ce que j'espère avoir fait dans ce récit qui effectivement insiste autant sur tout les apport positif qu'un personnage comme Robespierre a pu avoir sur la Révolution et dans l'héritage post-révolutionnaire au 19e et au 20e siècle, et également tous les côtés plus négatifs, voire assez inquiétants, qui ont été par cette historiographie souvent sous-estimés. Volontairement ou involontairement, et plus souvent volontairement, dans la mesure où quand on s'attaque à un héros comme celui-là, on fait des choix
là-dessus.
Et voilà.
On va revenir là-dessus. Merci beaucoup d'avoir posé ce décor, Antoine Boulan. Alors, on va commencer par le positif, peut-être ce que nous avons appris à l'école. Robespierre, c'est la défense des droits de l'homme, c'est l'exigence de la démocratie, c'est le combat pour le suffrage universel masculin, pour la liberté de la presse, contre la loi martiale, contre la peine de mort en matière judiciaire. Alors, dans un instant, on va quand même se poser la question, parce qu'il a fait guillotiner beaucoup de monde. Tout cela au nom, je vous cite et je le cite, du peuple bon, patient et généreux. Pour tout cela, Maximilien Robespierre a connu une popularité sans égale, Antoine Boulan.
Il a connu une popularité sans égale auprès du peuple, entre guillemets, mais Dieu sait que le peuple est une notion subjective,
très
extensible,
voilà,
très polymorphe, exactement. Ce qui fait vraiment la caractéristique de Robespierre, la chose la plus frappante, c'est que cet homme, indiscutablement, a anticipé le caractère irrésistible de la Révolution et le fait que cette Révolution de 1789, qui au départ se posait comme une transformation d'un système de monarchie absolue de droit divin pour arriver peu à peu vers une monarchie parlementaire ou constitutionnelle, pour aller vite. Robespierre a très vite compris que la Révolution ne s'arrêterait pas à ses premiers degrés de l'escalier et que ça monterait beaucoup plus haut.
Donc c'est une illusion de croire qu'on aurait pu en rester là, à cette monarchie rénovée, à cette monarchie de type constitutionnel.
Il y a deux phénomènes. Il y a d'abord le fait qu'effectivement Louis XVI, comme chacun sait, est parti à Varennes en juin 1791, ce qui ne l'a pas d'ailleurs empêché de bénéficier d'un gros regain de popularité juste après, mais qui n'a pas duré très longtemps. Et surtout, il y a eu ce puissant mouvement du peuple militant sectionnaire parisien, très attaché à la notion de souveraineté populaire, à la notion de révolution sociale, aller vite, et qui a très vite entraîné le mouvement vers quelque chose de plus radical. Alors, beaucoup de gens pensaient qu'on aurait pu en rester à la révolution de 1791, et d'ailleurs, lorsque la Constitution a été définitivement adoptée au mois de septembre 91, beaucoup de révolutionnaires ont considéré que la révolution était terminée, que les bases fondamentales du mouvement qui avait commencé en 89 étaient achevées. Mmh. On avait créé les départements, on avait institué un parlement, le roi avait des pouvoirs réduits, un certain nombre de libertés économiques et sociales avaient été accordées, et on aurait pu penser que le mouvement s'arrêterait là. Mais Robespierre a fait partie de ces quelques appelons-en les extrémistes, en tout cas qui siégeaient à l'extrême gauche.
Radicaux, on dit aujourd'hui.
Radicaux, alors si vous voulez, radicaux. Oui. Et qui siégeaient donc déjà à l'extrême gauche, mais même au sens topographique du terme ou géographique, puisqu'il y avait déjà une extrême gauche
c'est
de l'hémicycle.
C'est là où ça a commencé.
Et c'est là que ça a commencé, chacun le sait. Et il a eu ce pressentiment de comprendre que le torrent révolutionnaire allait continuer et que la demande démocratique et sociale pour aller vite était tellement forte dans une fraction de l'opinion qui était assez active dans Paris, ce qu'il faut pas, ce qui ne doit pas faire penser que 90% de la population était sur cette ligne-là, bien entendu.
Naturellement.
Mais il a compris qu'il fallait laisser les députés de l'Assemblée constituante se discréditer peu à peu aux yeux de l'opinion la plus radicale qui finirait par avoir le dernier mot. Et qu'il fallait se placer tout de suite du bon côté de l'échiquier pour avoir raison ensuite. C'est pour ça qu'il a jamais participé à tous ces comités législatifs qui existaient à l'époque de la Constituante, comme on a aujourd'hui une commission des lois, une commission de ceci et de cela. Et il a préféré attendre le moment de l'explosion finale pour dénoncer régulièrement à la tribune et en se faisant écouter des tribunes du public, car son véritable public, c'était pas les députés, c'était le peuple qui venait dans les tribunes et qui écoutait ses discours.
Et en dépit de sa voix fluette que vous évoquez.
Alors en dépit sa voix fluette, alors évidemment.
On n'a pas d'enregistrement à la BNF, mais au moins les témoignages concordent.
Ça, il faut attendre un peu plus longtemps, mais les témoignages concordent. Il avait apparemment une voix assez fluette, assez
aiguë. Il n'avait pas de micro.
Il n'avait pas de micro. On l'a surnommé la chandelle d'Arras, parce qu'effectivement, apparemment, il endormait beaucoup les gens avec des digressions permanentes et les députés lui demandaient.
Et des discours très longs.
Et des discours très longs. Mais il avait un vocabulaire, une façon de s'exprimer et de porter des idées avancées qui ont porté auprès d'une certaine opinion et qui ont fait de lui le véritable héros qu'il est devenu dès 1791-92 avant de devenir le maître du club des Jacobins et de dominer entièrement sur la scène démocratique.
Ce héros a présenté quand même une face négative que vous mettez aussi en évidence dans votre livre, Antoine Boulan. Il dénonçait en permanence des traîtres et des conspirateurs qu'il voyait partout, d'une certaine façon. C'était un homme froid, réputé pour son dogmatisme, son intransigeance. Il était nourri d'un sentiment de persécution. C'était en quelque sorte une sorte de complotiste et de fait, sous la terreur, il y a eu des centaines de milliers d'arrestations, d'exécutions, de massacres. Robespierre, c'était ça aussi.
Alors c'était ça Antoine aussi, Boulan. Même si on ne peut pas mettre sur le compte de la paranoïa réelle ou supposée de Robespierre, mais j'ai plutôt tendance à dire réelle, la totalité des arrestations ou des exécutions. Ce qui est certain, c'est que cette méfiance généralisée à l'encontre de tous ceux qui ne pouvaient pas partager exactement la ligne qu'il prenait a fini par mener à sa perte, au moins dans le cercle restreint du pouvoir, puisque c'est une coalition en juin et juillet 1794 de députés qui se sentaient menacés par cette perspective d'épuration permanente qui a mené à sa chute. Pas seulement, on en reviendra peut-être aux d'autres causes, mais ça ne se résume pas qu'à ça, mais ça a beaucoup compté. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un personnage qui a très vite montré des traits de persécution et d'isolement, mais même avant la Révolution. C'est-à-dire que le Robespierre de 93, en réalité, il existe déjà dès 1785-1786, avec un vocabulaire très manichéen. Robespierre était avocat, il avait prêté serment, il a plaidé au Conseil d'Arras. Il y a le bien, il y a le mal, il y a le vice, il y a la vertu, il y a les pauvres déshérités et les riches égaux. Et les conspirateurs. Et très vite,
c'est des choses qu'on entend aujourd'hui aussi.
Voilà, c'est des choses qu'on entend aujourd'hui, donc qui ne sont pas nouvelles loin de là. Mm-hmm. Et c'est vrai que dès les dernières années de l'Ancien Régime, chez Robespierre, on sent ce discours. Il s'est notamment beaucoup fâché avec le monde judiciaire qu'il a énormément critiqué parce qu'il pressentait cette révolution à venir. Il n'a pas été le seul. Voltaire, on le sait, a parlé de cette fameuse révolution qui allait arriver et dont il n'aurait pas le plaisir d'être témoin, pour reprendre son expression. Mais c'est vrai qu'il a vite senti qu'une révolution plus profonde qu'une simple révolution institutionnel était en cours de préparation, et on voit dès ces années 85, 86, 87 cette tendance à dénoncer constamment des complots. Il a publié un pamphlet anonyme, mais enfin on sait bien que c'est lui qui l'a écrit, qui s'appelait Les ennemis de la patrie démasqués, et on voit bien déjà dans cette rhétorique très manichéenne et assez violente ce qui préfigurera le futur discours et la future rhétorique terroriste des années 93-94.
Thank you.
Au micro, Frédéric Mounier, vous êtes sur RCF et vous avez bien raison. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Maximilien Robespierre dans cette édition des Racines du Présent. Robespierre le fraternel, Robespierre le fratricide. Nous sommes en compagnie de deux historiens de la période, Antoine Boulan, qui signe chez Perrin en coédition avec la BNF dans la collection La Bibliothèque des Illustres, un livre passionnant intitulé Robespierre, la vertu et la terreur. Et nous sommes également en compagnie de Charles-Éloi Vial, conservateur à la Bibliothèque nationale de France, spécialiste de la période également, et directeur de cette Bibliothèque des Illustres. Alors, avec vous, Antoine Boulan, nous avons vu les deux faces de Robespierre, ce grand défenseur des droits de l'homme, cette exigence de la démocratie qui l'habitait, et puis en même temps cet homme, ce dénonciateur, cet épurateur, ce radical qui a provoqué des milliers d'exécutions. Alors on va peut-être en venir à sa biographie, Antoine Boulan. Dès sa jeunesse à Arras, c'était un petit bourgeois de province, c'est ça?
Tout à fait.
C'était
typique,
un jeune avocat,
oui.
Un homme qui, comme beaucoup, était passionné par les lumières comme levier de lutte contre l'ignorance. Il n'était pas absolument opposé, écrivez-vous, à la religion. C'était un homme vertueux, désintéressé, dévoué à la défense des faibles. On le voit dans les premières causes qu'il a plaidé. On voit déjà se discerner dès sa jeunesse professionnelle une sorte d'opposition manichéenne qui va le marquer toute sa vie. Vous soulignez l'influence de Jean-Jacques Rousseau pour lui comme pour beaucoup d'autres. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Antoine Boulan.
C'est une passion pour Rousseau qui lui est amenée assez tardivement. En fait, on a cru pendant longtemps qu'il avait lu Le Contrat Social ou Les Rêveries du Promeneur Solitaire à l'âge de 10 ans. C'est pas vrai, c'est venu un petit peu plus tard que ça. Mais c'est vrai que la grande théorie que Rousseau avait mise en avant et qui a été appropriée par Robespierre très rapidement, c'est bien sûr la théorie de la souveraineté du peuple. Mais il ne faut pas oublier que Rousseau était partisan d'une démocratie directe et qu'il n'aurait sans doute pas approuvé l'institution d'un parlement ou d'une assemblée représentative via des députés. Donc il faut rester prudent sur cette notion de rousseauisme. Rousseau a été panthéonisé d'ailleurs en octobre 1794, après la mort de Robespierre, par les députés de la Convention. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué, d'abord par cette théorie de la souveraineté populaire, et puis ensuite par le caractère de Rousseau lui-même, très solitaire, je n'ai plus que, etc., la société que moi-même. Bon, enfin, on connaît la phrase. Donc c'est vrai que à la fois la personnalité de Rousseau et sa théorie de la souveraineté populaire, le contrat social, ont beaucoup marqué Robespierre, plus à la limite que Voltaire, qui pour Robespierre était certainement beaucoup trop anticlérical et anti-religieux. Et vous avez fait une allusion tout à l'heure à la religion, on en reparlera peut-être. Robespierre croyait profondément en l'existence d'une providence qui guide le destin des hommes, et donc les théories de Voltaire lui convenaient vraisemblablement un petit peu mieux. Maintenant, il faut aussi insister sur le fait que, bien entendu, Robespierre n'a pas été le seul à s'imprégner des idées philosophiques. On sait que ce sont des idées qui ont imprégné la mentalité d'un très très grand nombre. Voilà, c'était un très grand mouvement de fond. Il n'a pas été le seul à lire les auteurs grecs et romains au collège Louis-le-Grand. Tout le monde l'a fait à l'époque. Tout le monde se réclamait de Brutus, de César, de Cincinnatus, etc. Mais il y a toute une culture gréco-romaine qui a forgé la mentalité de tous ces avocats des Lumières à la fin du XVIIIe siècle. Et de ce point de vue, il n'est pas un modèle particulièrement différent de ses compatriotes.
Et puis, on voit aussi à travers votre biographie, c'est peut-être le petit bout de la lorgnette, mais il faut le dire quand même, que Maximilien Robespierre n'a pas connu de relations féminines. Vous avez bien cherché. Beaucoup de monde a beaucoup cherché, mais on n'a pas trouvé.
On n'en saura rien. On lui a prêté plusieurs petites amourettes à la fin de l'Ancien Régime. On lui a également prêté, mais ça, on sait aujourd'hui que c'est quelque chose qu'il faut remiser aux oubliettes, avec Éléonore Duplay, qui était la fille du menuisier Duplay, qui a hébergé Robespierre à partir de juillet 1791, rue Saint-Honoré, absolument, dans un immeuble qui n'existe plus, mais dont l'emplacement existe toujours. Il y a une plaque sur le mur à l'extérieur. On peut tout le revoir. En revanche, voilà, il aurait épousé une madame de Chalabre en 1793 ou 94. Tout ça ne relève que de témoignages qu'on peut trouver dans quelques mémoires ou correspondances du temps, mais voilà, il n'y a rien d'absolument certain sur ce sujet. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Robespierre et sa personne ne l'a jamais remis en cause, même ses plus féroces ennemis, est un peu l'incarnation de ce type de personnage public qui sacrifie totalement, non seulement sa vie sentimentale, mais sa vie privée à la cause publique. Il y en a eu quelques-uns, et c'est très bien d'ailleurs d'une certaine manière. Mais voilà, Dieu sait que le nombre de biographes qui ont travaillé sur Robespierre depuis 200 ans est important, et je n'ai jamais à ma connaissance lu quoi que ce soit de très significatif sur des histoires sentimentales et encore moins sexuelles.
Alors,
que Robespierre aurait pu avoir sous la Révolution.
Venons-en à la grande histoire. Vous écrivez, et vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, dans un premier temps, Robespierre n'est pas républicain. Il se réjouit de la réconciliation apparente du roi, de l'Assemblée nationale et du peuple.
Tout dépend de la manière dont on envisage le concept de république.
Oui.
S'il s'agit de parler de la république au sens où nous la concevons aujourd'hui, c'est-à-dire un régime sans roi, pas nécessairement avec un président élu au suffrage universel, mais sans monarque héréditaire, Robespierre, effectivement, n'était pas républicain. Mais dans l'esprit de Robespierre, comme dans l'esprit de beaucoup de contemporains, c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier des mots qui changent parfois de sens au fil des époques, pour Robespierre, la république signifiait le partage du pouvoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait un monarque héréditaire, mais que ce monarque avait des pouvoirs réduits au strict minimum, et qu'à côté de ça, la prépondérance du pouvoir législatif était affirmée à travers une assemblée élue démocratiquement, eh bien Robespierre considérait que c'était une sorte de république. Donc à partir du moment où le pouvoir du roi était réduit au minimum et qu'il n'avait pas de droit de veto, ce que l'assemblée lui a pourtant accordé, c'est-à-dire la possibilité de rejeter à deux législatures un décret ou une loi proposée par l'assemblée, eh bien Robespierre considérait que ce régime était compatible avec la Révolution. Et il faut bien se souvenir que 99% des Français et même des révolutionnaires actifs pensaient exactement la même chose, à l'exception de quelques personnalités comme Camille Desmoulins, que vous avez cité tout à l'heure, qui lui était vraiment républicain dès les débuts de la Révolution, et deux ou trois extrémistes qui considéraient véritablement que tout roi est un despote et doit être immédiatement écarté du paysage institutionnel français. Robespierre considérait qu'un partage du pouvoir était possible à condition que le peuple et le pouvoir via le suffrage universel.
Mais donc, si je vous entends bien, Antoine Boulan, le peuple, au moins dans les premiers temps, était plutôt modéré, plutôt réformiste.
Le peuple, oui, enfin voilà.
Qu'est-ce que le peuple ?
Qu'appelle-t-on le peuple ? Oui. Les minorités font toujours les révolutions, c'est bien connu, on en a parlé à l'occasion de mon dernier livre.
Oui.
Donc le peuple, oui, et puis il faut pas oublier aussi que, n'oublions pas qu'à l'époque, 81% de la population était paysanne et rurale, et on peut vraiment affirmer, sans crainte de se tromper, que le paysan breton ou provençal se moquait éperdument des discours que Monsieur Robespierre pouvait prononcer à la tribune, et était à peine au courant des événements qui se passaient à Paris. Faut jamais oublier ça, on dresse toujours une focale sur la Convention, le comité de salut public, le peuple militant, c'est-à-dire l'expression même de la démocratie révolutionnaire poussée à son paroxysme, mais n'oublions jamais le puissant sentiment d'indifférence qui a mu une grande partie de la population française à cette époque et qui a vu passer la Révolution comme parfois, non peut-être pas une anecdote, mais une période qui n'a pas toujours fondamentalement changé son quotidien.
Charles Lavial, est-ce que vous qui connaissez bien cette période, est-ce que vous partagez ce sentiment d'une certaine forme d'indifférence populaire? On peut quand même penser qu'à partir du moment où la religion a été mise en cause par la constitution civile du clergé, et encore plus au moment où le roi a été décapité, ça a créé comme un trouble au sein du peuple. Charles Loivial, qu'en dites-vous ?
Il y a la question peut-être de l'indifférence. C'est sûr que quand on a faim, on se soucie plus de si on va réussir à avoir à manger que qui gouverne à Paris. Mais il y a surtout aussi la question de la transmission, la lenteur de la transmission des nouvelles. Quand on est dans le Massif central, à cette époque, les nouvelles peuvent mettre 15 jours, 3 semaines à arriver.
Oui.
Donc il y a cet énorme décalage et le souci, évidemment, de tout ce qui est concret du quotidien. Ça domine dans les préoccupations des contemporains. Mais là, ce sont des questions. C'est très dur de trancher. Évidemment, est-ce qu'on peut avoir des sources sur l'indifférence ? Est-ce qu'on peut avoir des sources sur rien ?
Et
c'est très difficile. Et ça, ce sont des enquêtes qui peuvent se mener, mais qui peuvent être quand même très longues. Je l'avais fait pour un autre livre sur le 15 août 1811. On n'est pas très très loin.
Oui.
Qu'est-ce qu'on pensait de l'empereur et de l'anniversaire de l'empereur en 1811 dans les campagnes ?
Alors,
eh bien, c'est pas facile. Il faut essayer de retrouver des documents de la police, des documents rédigés par des maires qui sont parfois plus ou moins illettrés aussi.
Oui.
Par des curés de campagne, parfois on a les autorités militaires qui peuvent un petit peu observer ce qui se passe. Si on a de la chance, un voyageur qui passait par là peut noter aussi quelques éléments, mais c'est très compliqué.
L'écriture de l'histoire tient un très peu de choses.
C'est parfois très fragile, parfois ce sont des coups de chance, parfois ce sont comme ça des coups de projecteur sur une pépite, sur un document, sur un contexte, un endroit un peu particulier, mais ça reste quelque chose d'extrêmement fragile. Effectivement, écrire une histoire sur, par exemple, ce temps très long, qu'est-ce qui peut se passer dans le Massif central pendant la Révolution, où on ne sait rien de ce qui se passe à Paris, la mort du roi, c'est une nouvelle qui doit mettre des semaines et des semaines à arriver à certains endroits.
Mais ça a été un ébranlement quand même.
ça a été, bien sûr, ça a été un ébranlement, mais c'est aussi quelque chose qui, on va dire, qui infuse, qui est très très lent. Autre exemple, la nouvelle du retour de Napoléon en 1815. Il y a des moments, eh bien, Napoléon est déjà de retour depuis très longtemps, alors qu'on apprend à d'autres endroits. Et parfois, Napoléon est détrôné et certaines parties de la France apprennent à peine qu'il vient d'arriver presque. Donc c'est quelque chose de fragile.
Il faut tenir compte de ce décalage. Genre, il y a quand même, Antoine Boulan, un moment pivot, c'est la fuite à Varennes. À partir de ce moment-là, au moins Robespierre, lui, change de pied en quelque sorte.
C'est le moment où Robespierre a commencé à évoquer, il n'a pas été le seul, la possibilité d'une destitution, d'une déchéance du roi. C'est à partir de ce moment-là que cette idée a commencé à germer dans les esprits. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la fuite du roi n'a pas été forcément immédiatement fatale à son personnage, puisqu'il a eu un regain de popularité au moment de prêter serment à la Constitution de 1791. Mais c'est vrai que tous les problèmes s'accumulant, les problèmes politiques, le problème de confiance, les problèmes économiques avec la montée des prix, les problèmes sociaux, le problème religieux, vous avez raison de le rappeler, avec la constitution civile du clergé qui a créé un véritable schisme dans les campagnes entre les prêtres jureurs et les prêtres réfractaires. Tout ça a entraîné peu à peu une radicalisation du discours, au point d'ailleurs que le club des Jacobins s'est scindé en deux, puisque tous les modérés sont partis vers ce qu'on appelait le club des Feuillants, et que Robespierre, là aussi, a eu l'intelligence politique de conserver la tête de la toute petite minorité des Jacobins qui a décidé de rester fidèle aux idéaux démocratiques, et finalement c'est lui qui a fini par avoir raison, puisque peu à peu tout s'est emballé en 1792, les adresses, les pétitions de demande de déchéance du roi se sont accumulées sur le bureau de l'Assemblée, et bien sûr ce qui a tout radicalisé, c'est la guerre, puisqu'à partir du moment où en avril 1792 la guerre a été déclarée entre la France, l'Autriche et la Prusse, eh bien chacun devait choisir son camp et toute position considérée comme modérée était immédiatement considérée comme une position de trahison par rapport à la Révolution. Et là, les deux camps se sont bien affirmés, et ce qui a fini par aboutir en réalité à la chute de la monarchie en août 1792.
Voilà, il y a eu aussi donc les suites à cet état de guerre et aux tensions qui traversaient la société à ce moment-là. Il y a eu au moins à Paris les massacres de septembre qui ont quand même touché plusieurs milliers de personnes.
Oui, entre à peu près 2000 détenus ont été massacrés, oui.
Voilà. Robespierre ne s'est pas opposé.
Non. Hein? Non, il ne s'est pas opposé, comme il ne s'était pas opposé au massacre de 1789 suite à la prise de la Bastille. Et ça, c'est une petite... si j'ose dire, une petite différence avec un personnage comme Marat qui, lui, appelait ouvertement au meurtre. C'est-à-dire que Marat, dès 1789, écrivait dans son journal « Il nous faut 200 000 têtes pour consolider la Révolution ». Robespierre ne faisait pas partie de ces extrémistes, comme on en verra d'autres par la suite, comme Jacques Roux, comme Hébert, qui réclamaient ouvertement des massacres généralisés ou des exécutions très accentuées. Mais c'est vrai qu'il a, pendant longtemps, toléré ces massacres qu'il considérait comme nécessaires au bienfait de la Révolution pour consolider... les institutions qui étaient progressivement en train de se mettre en place. Le rôle de Danton, par exemple, au massacre de septembre est en revanche beaucoup plus ambigu, parce que lui était en plus ministre de la Justice, alors que Robespierre à l'époque n'était pas ministre, il était entre guillemets simplement membre de la commune et de la municipalité, ce qui était important. Mais voilà, les massacres, on n'a pas beaucoup d'éléments sur le rôle précis de Robespierre à ce sujet, mais ce qui est certain, effectivement, c'est qu'il ne s'est pas opposé au phénomène.
Et puis il y a eu la terreur, le tribunal révolutionnaire, 4000 comparutions en 16 mois, 2/3 de décapitation. Quelle a été la part de Robespierre ?
Alors d'abord, il faut pas... Vous avez raison d'insister sur le tribunal révolutionnaire, mais il faut rappeler que le tribunal révolutionnaire, avec un T majuscule... était une institution parisienne et que, bien entendu, la terreur ne s'est pas limitée à Paris, bien au contraire, hein, puisque la terreur dans les, j'allais dire les dernières estimations, elles datent maintenant de 50 ou 60 ans, elles sont très anciennes mais n'ont jamais été révisées. On estime que la terreur a fait à peu près 40 000 victimes, sans compter ce que certains appellent le génocide vendéen, mais c'est une autre question, qui a fait entre 150 et 200 000 morts. Oui. Alors le rôle de Robespierre, d'abord, il faut bien rappeler que Robespierre n'est naturellement pas le seul à avoir concouru à cette terreur. Robespierre faisait partie du comité de salut public, donc de cette instance exécutive qui comprenait 12 députés de la Convention, et il a partagé le pouvoir avec 11 collègues qui tous ont une responsabilité dans l'instauration de cette terreur. Et on sait bien, on en reparlera peut-être, que les hommes qui ont renversé Robespierre étaient tout aussi terroristes que lui, et qu'il y avait même des gens comme Joseph Fouché ou d'autres qui avaient eux-mêmes déjà participé de façon concrète à la terreur. Robespierre en a probablement jamais vu une exécution de sa vie, alors que la guillotine était à 500 mètres du palais des Tuileries où siégeait la Convention et le Comité de salut public, mais on peut douter qu'il y ait assisté à ce genre de choses. Donc il n'a pas été un acteur direct du phénomène. Ce qui fait qu'on retient toujours Robespierre dans la Terreur, c'est que c'est lui qui l'incarne plus que tous les autres, notamment en raison des discours qu'il a tenus à la Convention pour théoriser le gouvernement révolutionnaire, oui, et pour théoriser la Terreur. Et ce qui est intéressant dans le cas de Robespierre, c'est que l'on passe d'une Terreur traditionnellement présentée comme un moyen de défendre la République contre ses ennemis, je mets des guillemets, à une Terreur qui prend une autre signification, c'est-à-dire qui prend l'apparence d'un phénomène destiné à faire émerger l'homme nouveau de la société révolutionnaire, oui, épurée de tous ces éléments.
Le paradoxe, c'est que c'est fondé sur la vertu.
Et c'est fondé sur la vertu. C'est-à-dire que l'apport essentiel de Robespierre, oui, dans un discours célèbre de février 1794, c'est de dire, qui a inspiré le sous-titre de mon livre, c'est de dire « La terreur sans la vertu est funeste, mais la vertu sans la terreur est impuissante ». Alors on a beaucoup interprété oui, cette phrase. Beaucoup d'historiens ont tenu à relativiser les choses en disant « Attention, les mots n'avaient pas le même sens à l'époque, il faut rester prudent », mais il est certain que quand on lit aussi, par exemple, les discours de Saint-Just, ce que j'ai beaucoup fait pour la raison que vous savez, mmh, on voit bien qu'il y a chez Saint-Just et chez Robespierre cette notion indiscutable de transformer une terreur qui pouvait être considérée comme un moyen de défendre la France contre ses ennemis, ce qui est une utopie d'ailleurs, hein, c'est pas la terreur qui a sauvé la France, ce sont les armées françaises qui ont sauvé la France de ses ennemis, mais de la transformer en un moyen d'épurer la société de tous ces éléments aristocratiques, mmh, ou considérés comme tel. Et Robespierre a eu
un
rôle...
Vous utilisez le mot épuré. Oui.
Bah, je pense, parce que même à l'époque, on parlait déjà d'épuration au sein de la Convention quand Robespierre brandissait des menaces contre certains de ses collègues. Mais tout le monde a participé à ça. Quand on a voté le 10 juin 1794 une terrible loi qui s'appelle la loi du 22 prairial, oui, et qui simplifiait énormément les procédures du tribunal révolutionnaire, Robespierre a porté cette loi. Enfin, c'est son ami Couthon qui l'a porté, mais il l'a soutenu. Mais la Convention a voté la loi à l'unanimité.
Oui, alors même que cette loi... Il faut le rappeler, autorisé à clore les débats après 3 jours, mmh, sans entendre témoins, ni défense, si, je cite, la conscience des jurés est suffisamment éclairée. Et puis cette phrase absolument très très dure, quiconque tremble est coupable.
Voilà, ça c'est ce qu'il a effectivement dit.
Est-ce qu'on peut dire que Robespierre était l'ancêtre de Staline?
Là, vous me tendez un énorme piège, c'est pas sympathique.
Non, je vous ouvre une porte.
Vous m'ouvrez une porte. Je ne sais pas si on peut dire ça. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un lien, évidemment, entre, à l'époque, il y a un mélange des genres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Le tribunal révolutionnaire était une juridiction politique et non pas judiciaire au sens des tribunaux criminels qui avaient été créés dès 1792. Ça, on le sait. On sait que Fouquier-Tinville, le procureur, amenait régulièrement au Comité de salut public les listes des condamnés du tribunal. Donc il y avait un mélange des genres absolument flagrant. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a dans le fonctionnement de la Terreur de 93 et de 94 des analogies qu'on peut quand même souligner avec la Terreur des années 30, 32, 34 et les fameux procès de Moscou avec Wyszynski et sa cour. Oui, il y a des procédés absolument typiques qu'on retrouve dans les deux cas. L'amalgame, la généralisation, la dramatisation outrancière des chefs d'accusation. Et il y a vraiment dans cette mentalité une volonté, notamment à travers la loi de Prairial, de créer ce peuple nouveau, d'accélérer les procédures. Et Robespierre lui-même a toujours demandé l'accélération des procédures du tribunal. On a un petit carnet avec ses notes où il y a absolument aucune ambiguïté à ce sujet-là, avec des phrases qui ne peuvent pas être discutées de ce point de vue.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Cette semaine, les racines du présent autour du personnage de Robespierre. Maximilien Robespierre était-il fraternel ou fratricide? Nous en débattons avec Antoine Boulan, historien, auteur du livre très beau et très intéressant intitulé « Robespierre, la vertu et la terreur ». C'est chez Perrin, dans la Bibliothèque des Illustres. Et nous sommes également en compagnie de Charles-Éloi Vial, conservateur à la Bibliothèque nationale de France, qui est donc le directeur de cette collection de la Bibliothèque des Illustres. Alors, nous venons d'évoquer, Antoine Boulan, ce moment terrible de la terreur. Hein, je rappelle les chiffres, sans témoins ni défenseurs, 1700 exécutions en 7 semaines. Et finalement, la terreur s'est retournée contre Robespierre. Comment ça s'est passé, Antoine Boulan ?
On présente souvent le 9 Thermidor, c'est-à-dire la journée du 27 juillet 1794, comme la coalition de députés qui n'osaient plus dormir dans leur lit le soir car ce qu'ils avaient peur et qui voulaient
c'est
absolument
qu'on frappe à leur porte.
Voilà, qu'on frappe à leur porte, ouais. Et qu'il fallait absolument mettre fin à la terreur, ce régime ONI qui tuait tant d'innocents. Bon, la réalité est évidemment un petit peu plus subtile que ça, puisque comme je l'ai dit, beaucoup de personnages qui ont participé à la chute de Robespierre avaient eux-mêmes eu une part très active à la terreur et avaient voté avec enthousiasme toutes les lois terroristes, avec enthousiasme ou pour le moins avec conviction. Donc il faut tempérer un petit peu ce jugement et se dire que il y a essentiellement trois facteurs qui ont fait que cette journée a eu lieu et que les choses ont fini par se retourner par le promoteur du système. La première, ce sont tout simplement des inimitiés personnelles avec un certain nombre de collègues, car dans tout pouvoir qui associe même des gens qui ont les mêmes convictions politiques, il y a toujours inévitablement des frictions, des rivalités, des divergences idéologiques, et tout n'était pas rose dans le beau monde du comité de salut public où les engueulades étaient fréquentes. Voilà, des gens comme quelqu'un comme Carnot et Robespierre étaient assez éloignés l'un de l'autre. Il y avait des gens comme Prieur qui étaient des montagnards, mais plutôt de tendance modérée, donc il ne faudrait surtout pas croire que toute la Convention nationale était robespierriste. C'était une toute petite minorité. D'abord, à la Convention, il y avait les Girondins qui étaient quand même restés en place après le coup d'État du mois de juin 93. Il y avait ce qu'on appelait la plaine, c'est-à-dire le centre. Mmh. Il y avait la montagne à gauche, et parmi les montagnards, beaucoup de montagnards étaient anti-robespierriste ou n'était pas spécialement attiré par les théories de Robespierre. Alors, est-ce que ça devait arriver un jour? Bon, il y a eu d'abord le fait, en effet, qu'il y a eu des bisbilles internes, notamment quand Robespierre a décidé de créer un bureau de police au sein du comité de salut public, alors que la police était un attribut du comité de sûreté générale. Il y a eu une rancœur entretenue par beaucoup de députés qui n'ont jamais pardonné à Robespierre de leur avoir tordu le bras pour obtenir l'exécution d'Hébert et surtout l'exécution de Danton. Énormément de députés étaient très attachés à la personne de Danton et se sont sentis, par peur ou par obligation, obligés de voter le décret d'accusation contre Danton, qui signifiait en réalité le décret d'exécution, puisqu'à l'époque ça revenait à la même chose. Et puis il y a eu une association de gens qui effectivement étaient effrayés de voir constamment Robespierre appelé à des épurations qui semblaient ne jamais devoir se terminer, puisque même le 26 juillet 1794, la veille de sa chute, dans un célèbre discours qu'on appelle le discours du 8 Thermidor, Robespierre a appelé devant la Convention à l'épuration du comité de salut public, de la Convention nationale, du comité de sûreté générale. Et donc, on avait le sentiment d'épuration sans fin qui ne devait jamais se terminer. Alors, Robespierre disait toujours, il n'y a qu'un petit nombre de gens à éliminer, mais comme il ne
sauf
cessait,
il y en avait
toujours plus.
Charles-Éloi Vial, vous avez étudié cette période, plutôt sur la longue période, pas uniquement la Révolution, mais vous avez travaillé aussi, je l'ai dit tout à l'heure, sur les chutes et les abdications tout au long du 19e siècle. Peut-on voir dans cette capacité à s'entre-dévorer parmi les révolutionnaires, est-ce que c'est une constante des processus révolutionnaires qu'on peut observer dans notre cher et vieux pays, Charles-Éloi Vial, du moins au 19e siècle?
Disons, c'est une question un peu compliquée, c'est vrai. Oui. Mais oui, en effet, il y a quand même une part de déception dans toute révolution, une part aussi de lutte fratricide. On sent qu'il y a des tensions et on sent qu'une révolution, ça n'est jamais finalement ce grand boulevard vers une aube absolument
vers
dorée.
Nouveau,
c'est toujours un peu une déception. Ouais. On le voit en 1830, on le voit en 1848. Voilà. Il y a toujours des trahisons à la fin parce qu'il y a toujours un pouvoir un peu plus fort qui émerge et auquel
toujours. C'est une constante.
Toujours, en tout cas, dans les cas que j'ai étudiés.
Oui, c'est-à-dire que les révolutions donnent lieu, in fine, toute chose restant égale par ailleurs, une fois que tout est soldé, à des régimes autoritaires.
Alors, disons qu'il y a toujours pour celles que j'ai étudiées, il y a toujours une figure qui va finir par émerger. Ça va être Napoléon, ça va être Napoléon III, par exemple. Mm-hmm. Il y a toujours une figure qui émerge et il y a toujours des candidats un petit peu malheureux pour la révolution de 1848. Je pense à Lamartine, par exemple, qui pensait peut-être être l'homme providentiel, qui
qu'on
ne l'a pas été du tout.
Ici, oui, absolument.
Exactement. Lamartine, qui d'ailleurs, lui aussi.
Et qui s'en est jamais remis, du reste.
Oui. Il avait beaucoup travaillé sur les Girondins, il avait beaucoup réfléchi sur la révolution, sur Robespierre, mais quand il a vécu lui-même une révolution, eh bien il a été très déçu. Donc les révolutions sont parfois décevantes parce qu'elles ne se déroulent pas forcément comme on l'imagine.
Alors Antoine Boulan, reprenons cet écho du personnage de Robespierre à travers l'histoire politique de notre pays. Vous nous disiez au début de cet entretien que une certaine gauche universitaire avait monopolisé un peu la construction de l'icône Robespierre. Comment peut-on analyser, expliquer le fait que tout au long de notre histoire politique, la gauche radicale a tressé des lauriers à Robespierre?
Alors d'abord,
est-ce que ça a été une icône à ce point-là?
Elle les a tressés et d'abord, je voudrais dire que que, bon, de mon point de vue, et je pense que Charles Loivial sera du même avis, il n'appartient pas à l'éthique et à la fonction de l'historien de tresser des couronnes à qui que ce soit. Et certains historiens du XXe siècle, je pense par exemple à Albert Mathiez, qu'on écrit Mathiez, a été le plus grand, adressé les plus grands éloges de Robespierre, au-delà, à mon avis, de toute éthique qu'un professeur de la Sorbonne doit avoir. Enfin,
trop loin.
Je pense. C'est-à-dire que très vite, le personnage a été récupéré non seulement par des hommes politiques, ce qui peut se comprendre, et notamment toute la génération de 1830 ou 1848, donc dans les années qui ont suivi la Révolution, s'est très vite approprié le personnage de Robespierre qui avait été très stipendié au début du 19e siècle, et ils en ont très vite fait effectivement un modèle qu'on retrouve sur toutes les lithographies qui sortent dans les années 1830-40. C'est assez intéressant à étudier, et souvent on le voit d'ailleurs à côté de la Déclaration des droits de l'homme de 1793, pas celle de 89, c'est-à-dire celle qui promeut le droit à l'assistance et à l'instruction. Mais c'est quand même plus ennuyeux lorsque cette récupération est l'objet de personnes dont la fonction est d'enseigner, d'étudier et d'expliquer un personnage dans le contexte de son époque. Et Albert Mathiez, en particulier dans les années 20 ou 30, il est mort en 32 je crois, a rédigé un manifeste qui s'appelait « Pourquoi nous sommes robespierristes ?» Et Michel Vauvel, qui était mon directeur de maîtrise, paix à son âme, en 1988, avait lui-même écrit un manifeste qui s'appelait « Pourquoi nous sommes toujours robespierristes ?» Michel Vauvel était professeur à l'Université Paris 1, il dirigeait l'Institut d'Histoire de la Révolution française, et je trouve qu'on peut s'étonner que des personnes qui se targuent de d'avoir un métier d'historien et donc un métier scientifique avancent à ce point l'éloge d'un personnage qui doit rester, à mon avis, confiné à l'état de personnage historique. Et oui. C'est tout le débat sur la Révolution est-elle un objet froid ou un objet chaud. Voilà. Alors maintenant, c'est vrai que Robespierre est l'incarnation même de ce qui a pu faire rêver la gauche et l'extrême gauche pendant des années, notamment et surtout pour son combat, effectivement, vous l'avez dit, pour le suffrage universel masculin, bien entendu. On ne pouvait pas envisager le suffrage universel avec les femmes à l'époque. Ça n'est arrivé que très tard, je l'apprends à personne. Mais c'est vrai que c'est surtout ce combat en faveur des pauvres, des déshérités, des gens qui n'ont pas le droit de voter. Il était pour
Les invisibles,
voilà, on peut les appeler comme ça, les protestants, les juifs, les comédiens. C'est vraiment à ce titre-là, et parce qu'il a été le premier sous la Révolution à affirmer avec autant de clarté la nécessité de défendre ces personnes, c'est à ce titre-là que la gauche l'a récupéré, en faisant fi pudiquement de tous les aspects plus négatifs du personnage, qui sont évidemment un peu plus embarrassants et qu'on a toujours un petit peu de mal à reconnaître.
Et on voit aujourd'hui que la gauche radicale prône, exactement comme le prônait Robespierre, des mandats législatifs courts et révocables. D'une certaine forme de référendum d'initiative populaire aussi, c'est d'inspiration robespierriste. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à faire le parallèle entre les sectionnaires que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire les membres des sections, les sans-culottes, avec les gilets jaunes d'aujourd'hui, ou du moins avec certaines de leurs revendications?
Je dirais qu'il y a un parallèle à la fois politique et sociologique. Le parallèle politique réside dans effectivement ce que vous appelez les revendications, c'est-à-dire la revendication de la souveraineté populaire opposée à la souveraineté nationale.
C'est ça.
Ça, c'est vraiment
souveraineté
un trait
directe.
Absolument. Ça, c'est vraiment un trait très caractéristique de la sans-culotterie des années 1792-93, c'est-à-dire que les députés ne sont que des mandataires du peuple, révocables à volonté lorsqu'ils n'exercent pas dans le cadre du Parlement les souhaits que le peuple a exprimé au moment de son vote.
Il faut que le mandat soit impératif.
Il faut que le mandat, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez les Gilets jaunes d'aujourd'hui. Et je donnerai un deuxième parallèle, même s'il faut toujours rester prudent à 250 ans de distance, mais c'est quand même assez frappant, c'est le parallèle sociologique, puisque contrairement à ce que le grand public croit parfois, les sans-culottes de 93 n'étaient pas du tout des personnes pauvres. C'est-à-dire que c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui la classe moyenne, des gens qui avaient plutôt une situation peut-être pas aisée, mais en tout cas minimum. On avait beaucoup de commerçants, beaucoup d'artisans parmi les sans-culottes, et en réalité les vagabonds et les sans domicile fixe ne s'intéressaient absolument pas à la politique à l'époque et n'avaient que très peu de liens avec la sans-culotterie. Et on retrouve cette caractéristique sociologique dans les gilets jaunes d'aujourd'hui.
Les classes moyennes inférieures, sans espoir, sans perspective.
Voilà, on a bien vu que ce ne sont pas les banlieues qui ont manifesté voici quelques années, c'est la classe moyenne.
Charles Loivial, on arrive bientôt malheureusement au terme de cette conversation tout à fait intéressante. Vous qui avez étudié les chutes, les abdications et les processus révolutionnaires révolutionnaire tout au long du 19e siècle. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que notre pays ne peut se réformer que dans les spasmes de la violence et que notre pays n'a pas véritablement de tradition historique, de dialogue et de construction ensemble, Charles Loivial?
Alors, ça a été le cas apparemment au 19e siècle, on l'a vu, 1830, 1848, un petit peu 1870.
La Commune.
Il y a eu la Commune. Il y a eu cette tradition de violence. Après, ça n'est plus le cas pour l'instant. Enfin, on y échappe, j'ai l'impression. Donc, c'est pas forcément une histoire qui est appelée à se répéter.
Il y a eu février 1934.
Il y en a eu.
Mai 1958. Ça a été un peu agité quand même. Mai 68, ça a été un peu agité aussi.
Mais de moins en moins. Il y a eu de moins en moins de morts à chaque fois. Donc
oui.
C'était quand même moins dramatique.
Car les techniques de maintien de l'ordre connaissent des progrès peut-être.
Peut-être. On parlait de la révolution qui se refroidit. Peut-être aussi que l'esprit révolutionnaire se refroidit progressivement. Je ne sais pas non plus. Je ne suis pas non plus spécialiste ni du XXe siècle, ni des gilets jaunes. Mais c'est une question que je me pose. Est-ce que la révolution elle-même l'esprit révolutionnaire n'est pas en train de se refroidir?
Votre avis, Antoine Boulan?
Non, c'est difficile à dire. C'est vrai qu'on n'a pas la culture de la réforme. Dans le cas de la révolution de 1789, bon, il faut quand même rappeler qu'on revenait de loin. C'est-à-dire que quand la révolution a éclaté, on avait 1000 ans de monarchie absolue, de droit divin pratiquement derrière soi. Il y avait toute une société aristocratique, des hiérarchies sociales qui s'étaient imposées. Et donc, il était évident qu'à partir du moment la crise financière aboutissait à la convocation des États généraux, il fallait que ça aboutisse à quelque chose de relativement violent et radical.
Très bien. Écoutez, un grand merci à vous deux. Antoine Boulan, je rappelle le titre de votre livre, Robespierre, la vertu et la terreur. C'est publié chez Perrin dans la collection Bibliothèque des Illustres. Charles Loivial, vous qui dirigez cette collection, pouvez-vous nous rappeler les autres titres de cette collection Bibliothèque des Illustres?
Pour l'instant, il y a eu un Napoléon, écrit par moi-même. Un Mazarin, écrit par Olivier Poncet, qui est professeur à l'École des Chartes. Un Marie-Antoinette, écrit par Hélène Delalex, qui est conservatrice au château de Versailles, et donc un Robespierre par Antoine Boulan, et très bientôt également, je pense que je peux le dire, un Napoléon III écrit par Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon.
Ah, et qui sortira quand?
Et qui va sortir d'ici novembre, donc à peu près pour mettre sous le sapin.
Et alors, levez peut-être le secret, quels sont les documents, les pépites que vous allez extraire des fonds de la BNF et que nous allons découvrir sur Napoléon III?
Alors, pour Napoléon III, j'ai eu notamment la surprise de trouver dans les collections du département des manuscrits des télégrammes échangés entre Eugénie et Napoléon III, qui sont très beaux sur un papier jaune qui a été fait pendant la guerre d'Italie en 1859 avec un en-tête en italien avec des couronnes, enfin c'est assez joli. Donc c'est un des documents qui va être cité. Il y a également d'autres manuscrits, d'autres témoignages, je pense par exemple au souvenir de Stéphanie Taché de la Pagerie qui est une cousine de Napoléon III, on a également quelques lettres de jeunesse, on a des photographies évidemment également, des gravures, des dessins, quelques ouvrages qui ont appartenu à Napoléon III, donc je pense que les amateurs pourront s'y retrouver.
Napoléon III, peut-être un souverain assez méconnu dans notre histoire. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler à l'occasion de la sortie de ce livre où nous accueillerons probablement Thierry Lenz. Un grand merci à vous deux, donc Antoine Boulan et Charles Loivial. Et puis rendez-vous tous à la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu, pour visiter ce nouveau site qui a été rénové et qui promet de nous faire découvrir des tas de belles choses. Un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités sur le site de RCF. Merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine. We'll be right back.